Marc, bonjour tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Jérémy. Alors, il n'y a pas d'erreur, effectivement, je vis en Alsace et je sers aussi à l'église de Fribourg en Suisse. Donc j'ai un peu une double casquette avec des allers-retours dans la semaine. Mon entreprise, donc j'ai un fitness à Mulhouse, au sud de l'Alsace, et me permet d'avoir du temps aussi à consacrer au ministère et à l'église. Donc voilà, donc c'est une vie qui peut paraître compliquée, mais qui ne l'est pas tant que ça. À partir du moment où on est bien organisé, tout va bien. Les 19 derniers mois, effectivement, ça a été des périodes, alors pour moi le premier aussi, évidemment, ça a été des périodes de succession de montagnes russes dans les émotions, au niveau du travail, au niveau des activités, au niveau de l'église aussi. Je me suis retrouvé, eh bien, particulièrement moi, en tant que Français qui servait en Suisse. Je ne suis pas payé par l'Église, donc je n'ai pas de contrat de travail en Suisse. Donc j'avais plus le droit de passer la frontière pendant plusieurs mois. Et le début du confinement en mars 2019, 2020, l'année dernière, a été pour moi une double coupure, en fait, une coupure du travail, une coupure de l'Église, une interdiction d'aller voir les gens avec qui je vis les choses dans la foi, une interdiction d'avoir des clients, d'ouvrir mon entreprise devait ouvrir en janvier 2020. Voilà, donc je suis tombé juste au bon moment. Et ça a été évidemment, alors pour moi, un choc de me retrouver face à une vie qui avant était très, 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 très agitée, très, très rapide. Et tout. On avait l'obligation de s'arrêter pendant. En France, nous, le confinement a été beaucoup plus strict qu'ici. On avait des attestations de sortie pour 1 heure par jour pendant 4 mois. On n'avait pas le droit d'aller à plus d'1 km de chez nous et pas le droit d'aller plus loin que le magasin le plus proche de chez nous pour faire les courses de première nécessité. On n'avait pas le droit de se promener au bord des cours d'eau. Fait partie des choses, voilà. Mais ça a été vraiment une période dans laquelle je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'était ma place de commencer une entreprise à ce moment-là? Vous savez, c'est dans ces moments finalement où on se retrouve face à soi-même, on se retrouve avec tellement de temps à occuper qu'on commence à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on fait ici, quelle est notre place. Enfin, on se pose des questions que Dieu nous demande de nous poser, pas seulement chaque début d'année, mais peut-être régulièrement dans notre vie. Et pour beaucoup de gens que j'ai pu entendre, j'ai travaillé pour ceux qui connaissent la maison Bethel. Pendant 10 ans, j'ai travaillé à la maison Bethel. On recevait là-bas des gens qui sont dans la dépression, d'autres dans le burn-out, d'autres qui ont des idées beaucoup plus noires, avec parfois des tentatives de suicide. Et on accompagne ces gens, et beaucoup, beaucoup de ces personnes, quand elles se retrouvent face à elles-mêmes, qu'elles ont le temps de réfléchir, ont tout à coup peur de qui elles sont, peur de ne pas trouver leur place, peur de finalement de pas être là où Dieu veut qu'elles soient. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que le monde change très rapidement. Quand j'ai passé mon baccalauréat, et ça n'a pas l'air de me rajeunir, il n'y avait que 2 personnes qui avaient un téléphone portable dans ma classe. Aujourd'hui, ça nous fait sourire. Pourtant, le bac, pour moi, ce n'était pas si loin que ça. Et on nous a habitués à vivre dans des changements rapides, mais pas à nous arrêter, à nous, on ne nous a pas appris à vivre dans un arrêt rapide. On nous a appris à vivre avec des changements technologiques, mais pas avec un retour à certaines choses de base. Et c'est vrai que de voir le monde changer, c'était quelque chose qui est devenu pour nous une routine. Mais le voir s'arrêter, pour la plupart d'entre nous, c'était une première. Et ça a réveillé dans le cœur de beaucoup de gens quelque chose de différent. On le voit, par exemple, dans le monde du sport dans lequel je viens. En France, en tout cas, c'est les chiffres, pratiquement 25% des coachs sportifs ne sont plus retournés travailler dans leur métier d'avant. Un quart des coachs se sont dit finalement, c'est trop d'horaires, on finit le soir, on travaille les week-ends, c'est aussi trop d'efforts physiques, ils n'ont pas voulu retourner dans ce métier-là. Combien de gens se sont posé cette question-là? Ça met face à plein d'incertitudes. En fait, notre vie, et c'est normal, on est fait comme ça, notre vie se déroule beaucoup autour d'habitudes, autour de routines, autour de choses qu'on a l'habitude de voir revenir. Et Dieu a fait le monde ainsi. Il a fait des saisons, il a fait le jour, la nuit, le jour, la nuit, le printemps, qui est bientôt les fêtes de Noël. Il a posé même dans le calendrier des fêtes, qui reviennent chaque année. C'est bientôt les fêtes de Noël. Chez nous, en Alsace, tout est prêt. La semaine prochaine, les marchés de Noël ouvrent. Les gens commencent à arriver, les touristes recommencent à venir. Et c'est des périodes qu'on aime vivre parce qu'on peut s'appuyer dessus, parce qu'il y a quelque chose à derrière de stable. Il y a quelque chose qui nous rassure. Il y a quelque chose à derrière où on se dit, là, je peux faire la fête dans un cadre. Et on a beau dire qu'on n'aime pas les lois, qu'est-ce qu'on aime le cadre ? Et quand ce cadre commence à se fissurer, là, tout à coup, les peurs commencent à arriver. Alors, je vous parais peut-être un petit peu négatif. Ça ne va pas durer. Quel est le livre dans la Bible que vous préférez lire quand vous allez mal ? Les psaumes. C'est le livre qui revient souvent. Moi, c'est un tout autre livre qui va peut-être vous étonner. C'est le livre de l'Ecclésiaste. Un livre assez court. Et quand on le lit de but en blanc, au départ, en tout cas, on se dit, mais pourquoi ce livre ? À la limite, quand on est dépressif, on lit ce livre, on se dit, je fais bien d'être dépressif. L'Ecclésiaste commence avec ces versets, chapitre 1, verset 4. Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment le même. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte de retourner à son point de départ. Le vent souffle tantôt du sud, tantôt du nord. Le vent souffle, le vent tourne et il reprend sa première direction. Tous les fleuves se jettent dans la mer et la mer n'est jamais remplie. Et sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent au même endroit. On ne pourra jamais dire assez combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau qui se produit sous le soleil. S'il y a quelque chose dont nous disons « voilà quelque chose de neuf », en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Les hommes qui viendront après nous ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui leur succéderont. Le livre commence comme ça et on se dit, quel tableau noir. Les choses se répètent et se répètent et se répètent et se répètent. Et l'Ecclésiaste ici nous dit, mais on ne pourra jamais dire combien tout cela est lassant. Et pourtant, quand ces choses s'arrêtent, on a envie d'y revenir. On a beaucoup dit, ces derniers mois, pendant les confinements, que quand les confinements s'arrêteraient, le monde changerait. Je ne sais pas aujourd'hui qui a l'impression que le monde a changé, en dehors des problèmes supplémentaires qui se rajoutent, des pénuries et autres, mais le monde et le caractère des gens n'a pas tant changé que ça. C'est comme si on revient à une normale et comme si on avait ce besoin, ce désir de revenir le plus vite possible à la normale. Mais le roi Salomon nous dit, c'est quelque chose de normal aussi, on pense très vite que nos habitudes se répètent. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que le monde avance très vite, que nos habitudes aujourd'hui n'ont jamais autant détruit le monde qu'avant. Je regardais, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit reportage sur le monde romain, où on nous explique comment leur système politique était efficace, combien de lois ils votaient. On est les seuls, les premiers depuis l'époque romaine à voter autant de lois. Et c'est, on le voit, alors je ne sais pas si vous connaissez ce terme, la science des civilisations qui s'écroulent, on appelle ça la collapsologie. Et on se rend compte que quand une civilisation est en train d'arriver à la fin, elle a tendance à édicter des milliers de lois pour essayer de garder son cadre et de surtout pas tomber dans autre chose. Les habitudes. Gardons ces habitudes, couvrons-les de lois pour que personne n'en sorte. Les Romains avaient un système politique très efficace, une armée qui leur permettait de maintenir ce qu'on appelait la paix romaine. Pendant des dizaines d'années, il n'y a pas eu de guerre dans certains pays, comme dans les régions ici. Comme on est en train de le vivre en ce moment, depuis des dizaines d'années, on fait la guerre aux frontières pour éviter d'avoir la guerre chez nous. Ils allaient dans les théâtres, ils allaient dans les cirques, ils construisaient des HLM. La ville de Rome était connue pour ses immeubles jusqu'à 6 étages dans lesquels s'entassaient les personnes pauvres à côté des palais des riches. Ils mangeaient des fruits qui venaient d'Afrique, s'habillaient avec des tissus qui venaient d'Asie. Il suffirait de changer le mot romain par le mot européen aujourd'hui et on a l'impression d'être dans le même monde. Mais comme nous dit l'Ecclésiaste, nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres et nous oublions, nos futurs oublieront ce que nous avons vécu. pourquoi l'Ecclésiaste se concentre là-dessus pour dire que le monde tourne rond ? Il continue deux chapitres plus loin en ramenant les choses à Dieu. Et ce chapitre-là, souvent on le prend pour se consoler ou pour comme ça, mais je crois qu'il y a là derrière vraiment un message qui est différent. Tout ce qui se produit sur la terre arrive au temps où ça doit arriver. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes, un temps pour tuer, un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour donner des baisers, un temps pour refuser d'en donner. Ça aussi, on le vit en ce moment. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour recoudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Mais quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai considéré les occupations de Dieu que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui lui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir, et pourtant nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu et du plaisir et de vie. J'en ai donc conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver du plaisir et de vivre dans le bien-être. Lorsqu'un homme mange, quand il boit, quand il jouit des résultats de son travail, c'est là un grand don de Dieu. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent son autorité. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, s'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. Voyez ces textes, souvent on va dire il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, on va dire ça à quelqu'un qui pleure. On va oublier de le dire à celui qui rit, parce qu'on n'a pas envie de gâcher sa joie. Mais il y a des moments où ces textes-là doivent peut-être nous appeler à nous préparer, à ne pas constamment vivre dans les mêmes émotions et à ne pas forcément essayer d'entretenir un système d'émotions qui doit rester toujours au top. Dieu nous dit, c'est normal qu'à un moment tu ris et que peut-être demain, pendant un moment, tu vas pleurer. Et ce n'est pas quelque chose de grave, ces choses peuvent arriver chacune dans leur temps. Il faut apprendre à les accepter, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à faire aussi de certains moments des alliés. À faire de certains moments, pas un sentiment de destruction de notre vie, mais un allié pour rebondir et aller dans quelque chose peut-être de plus grand, quelque chose dans quoi on peut reconnaître l'autorité de Dieu sur notre vie. Il y a un temps pour chaque chose. Les événements ne durent qu'un temps. Et on a, de ce côté, on a l'impression qu'il y a de là deux choses qui se contrechoquent. Dieu fait que les choses se répètent, Dieu fait que la roue tourne, et en même temps, dans la Bible, tout le message de l'Évangile est de dire « Voici, je fais des choses nouvelles, je vous donne une vie nouvelle, je vous donne un esprit nouveau, je vous donne un cœur nouveau, je vous change. » Et ce que Dieu fait, l'Ecclésiaste le dit, ce que Dieu fait demeure à jamais. Il y a donc une différence qui est faite là dans la Bible entre ce qu'on peut vivre dans le monde, l'histoire de la nature, de l'humanité, et de l'autre côté, l'œuvre de Dieu qui, elle, est là pour perdurer. Et il y a donc là déjà un chemin qui se dessine. Un chemin dans lequel on peut aller de façon simple, où on peut tout à coup se dire, mais les promesses que Dieu a pour ma vie, ce ne sont pas des choses qui sont dans la roue du temps, qui tournent, qui reviennent avec des larmes, des joies, des larmes, des joies. Ce sont des promesses qui perdurent. Ce sont des promesses qui sont là pour nous amener dans une stabilité. Qu'est-ce que c'est que la stabilité ? Moi, je vous disais, j'ai un logement en France, je dors aussi en Suisse, chez des gens, à droite, à gauche. Je fais des allers-retours, je voyage beaucoup. Et je travaille énormément à des heures qui sont complètement différentes les unes des autres, sur des journées qui sont... Je n'ai pas du tout un emploi du temps qui est stable. J'ai déménagé régulièrement ces dernières années. Il y a pas mal de gens qui m'ont posé cette question, mais comment tu fais pour te poser ? Et Il y a quelques années en arrière, je réfléchissais à ça et je priais par rapport à ça et j'ai vraiment senti Dieu qui m'a dit, mais est-ce que ta stabilité est dans ton emploi du temps ou est-ce que ta stabilité est dans tes émotions de ce que je vis avec Dieu? Et à partir du moment où nos émotions sont stables, peu importe ce qui change autour, les émotions restent stables. Vous savez, il y a un verset alors qui est un tout petit peu mal traduit parce qu'il est un peu compliqué à traduire, mais qu'on connaît très bien. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Et ce mot sagesse, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas tout à fait la sagesse de connaître des choses comme on le dit aujourd'hui dans le langage courant. C'est plutôt un esprit de maîtrise. D'ailleurs, il y a une version biblique qui traduit ça, un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et en fait, c'est une forme de maîtrise de soi, de maîtrise des émotions. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et un esprit qui soit capable de maîtriser nos émotions. Et la stabilité, sortir de la crainte, passe par la force de Dieu, par cet amour de Dieu et par cette capacité que Dieu nous donne à finalement nous stabiliser là-haut et ici. Sans ces choses, on est perdu. Et ce n'est pas un travail en CDI, une maison, la routine de chaque jour qui va nous remettre dans quelque chose qui nous permettra d'être en paix. Je vous l'ai dit avant, moi j'étais censé signer mon bail commercial le 28 février 2020. 27 février 2020, le dernier jour de février en 2020. Et ce jour-là, je n'ai pas pu aller signer mon bail, j'avais le Covid, je sortais d'un rassemblement évangélique, voilà, qui a transporté le Covid un peu partout. Et heureusement que je n'ai pas pu signer mon bail ce jour-là, ça m'a permis de ne pas avoir de traite à payer pendant les mois de confinement. Et donc, j'ai pu aller signer mon contrat de bail à la moitié du mois de juin. Le temps d'aller voir les banques, que les banques acceptent le projet, qu'elles signent le crédit, on était le 27 octobre quand mon entreprise a pu ouvrir. Le 1er novembre, le deuxième confinement était annoncé en France. On nous a dit « vous pourrez ouvrir le 15 janvier ». J'ai dit « ça tombe bien, les travaux seront finis le 9 ». On a attendu jusqu'au 9 juin. Et pendant toute cette période, j'ai eu la chance, comme je n'avais pas de chiffre d'affaires, évidemment, entre le 29 octobre et le 1er novembre, de ne pas pouvoir toucher les aides pour le Covid. J'ai perdu, on a estimé avec mes comptables, environ 100, 105 000 euros sur la période grenier sur certains, sans aucune aide. C'est de l'argent qui était en partie, on a dû renier sur certains travaux, renier sur certains budgets, on n'a pas mis de sauna, on a essayé d'économiser là où on pouvait. Tout le fonds de caisse que j'avais pour tenir les quatre premiers mois a été mangé. Et j'ai pu commencer mon activité en étant déjà dans des dettes. Et évidemment, j'ai commencé au mois de juin, début juillet, on nous a dit « Monsieur Macron va faire des annonces ». Du jour au lendemain, les inscriptions se sont arrêtées nettes jusqu'à ce qu'il ait fait ses annonces. On va mettre en place un pass sanitaire. J'ai la chance d'être dans la ville de France la moins vaccinée. On a 53% de personnes vaccinées à Mulhouse contre une moyenne à 80 et quelques pourcents en France, sur le reste de la France. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain, du coup, avec des dettes, avec un public qui ne pouvait pas venir faire de sport et qui encore aujourd'hui ne peut pas venir faire de sport. J'ai 47% de la ville qui ne peut pas rentrer dans ma salle. Et toutes les salles de sport de la ville de Mulhouse aujourd'hui tirent la tête. Et j'ai été mis, évidemment, la banque m'a coupé les comptes là au mois d'octobre. Et je suis en attente d'un jugement là au mois de décembre pour voir si mon entreprise va pouvoir être redressée au niveau judiciaire ou si elle va faire faillite. Et dans ces moments-là, eh bien, la stabilité émotionnelle avec Dieu, tout à coup, vient jouer tout son rôle. Est-ce que je suis stable dans ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que les circonstances du monde viennent me détruire mes petits espoirs, mes petites espérances, mon petit confort? Évidemment, mon niveau de vie, là, a baissé. Hein. Entre le moment où je bossais en Suisse et aujourd'hui où je touche des aides sociales en France, on n'est pas au même niveau. Hein. Mais la joie a pu rester. parce que la joie en Dieu ne dépend pas de ce genre de circonstances. L'Ecclésiaste dira plus loin que la course n'appartient pas au plus rapide, ni le pain au plus intelligent, ni le succès au savant, etc. Car pour les hommes, tout dépend des circonstances et du temps. Sous-entendu, pour ceux qui appartiennent à Dieu, les choses ne dépendent pas des circonstances, ces choses ne dépendent pas du temps. Les choses dépendent de ce que Dieu décide et de comment est-ce qu'il va faire avancer notre route. Tout au long de mon projet, Dieu a fait des miracles, toujours à la dernière minute. Il y a un moment où je me suis retrouvé, j'avais 1,27€ sur les comptes et 20 000 € à payer dans la semaine. J'ai dit à Dieu, je demande à personne, tu te débrouilles, parce que je ne veux pas mendier. 3 jours plus tard, quelqu'un est venu me voir, il a dit, écoute, je priais pour toi et j'ai senti que tu avais besoin d'aide, on a 22 000 € qu'on veut te donner. L'argent est arrivé à 9h le matin sur le compte, à 11h il était parti. Et Dieu en fait agit comme ça avec moi depuis le début et on se dit là, il faut avoir cet esprit de force et d'amour, se dire que Dieu nous aime et ne pas se laisser déstabiliser. Elle nous dit, si tu n'as pas une assurance, t'es mal. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si tu es dépendant de moi, tout ira bien. Est-ce qu'on est prêt à un moment à se dire, je vais me fonder là-dessus? Et qu'importe que le monde s'écroule, hein, mon entreprise peut tomber, c'est 2 ans de travail, ça m'embête. C'est beaucoup d'investissement, c'est 10 ans d'économie, c'est embêtant. Mais ce n'est pas la fin, et ce n'est surtout pas la fin du projet de Dieu pour moi. Hein. Et je ne pleurerai pas sur cette entreprise si elle devait fermer. Parce que le plan de Dieu était que j'apprenne aussi beaucoup de choses. Et si ça doit continuer, amen. Si ça doit fermer, j'aurais tellement appris que ce n'est pas plus cher que le prix d'une école. Beaucoup de gens payent des écoles énormes pour apprendre moins que ce qu'on peut apprendre dans des moments comme ça. Les habitudes sont bonnes. Dieu nous donne des habitudes, il les met dans le calendrier. Et il y a de bonnes traditions, de bonnes habitudes qui ne doivent pas être des traditions, mais qui sont de bonnes routines pour garder une stabilité dans la vie. Ces routines-là de Dieu, ce sont des routines qu'on connaît tous, mais que parfois, on n'utilise pas comme on devrait les utiliser. Nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Dieu nous demande de réfléchir à ce qui est arrivé. Peut-être vous connaissez, je ne sais pas si je suis en retard ou pas, je ne sais pas combien de temps il reste, ouais, mais je ne sais pas si vous connaissez cette image dans le prophète Daniel, une image que le prophète Daniel a reçue d'une statue. La tête de la statue est une tête en or. Elle représente le royaume de Babylone. Et puis, on a le torse de la statue dans une autre matière un peu moins noble. Et le torse représente le royaume qui suit. Et puis on a la ceinture qui représente le royaume suivant. Et puis on a les jambes en fer qui représentent là le royaume romain. Et puis ses pieds en fer et en argile qui représentent encore ce qui vient après. Pourquoi le royaume le plus ancien est à la tête? Quand on construit un bâtiment, on construit un clocher, on ne commence pas par le toit du clocher, ensuite on met les cloches et ensuite on construit les murs en dessous. On ne s'amuse pas à se soulever chaque fois pour reposer sur de nouvelles bases. On commence par des fondations et on construit à partir des fondations. Mais des générations dans le monde, et chaque génération a ce désir-là de dire « c'est moi qui vais poser les fondations ». J'oublie ce qui est derrière, je reconstruis. Et la génération d'avant devient plutôt un poids que je vais poser sur mes épaules qu'une force qui me porte. Et Dieu nous demande de nous souvenir ce qui est arrivé avant. Il nous demande de nous souvenir quelle est la sagesse qui nous a été enseignée. Il nous demande de construire sur les fondations solides et pas de vouloir remettre nous-mêmes les fondations qu'on estime être les meilleures. Ce raisonnement-là, c'est un raisonnement comme dans les juges, il pourrait être noté. Ah, ce peuple n'avait pas de Dieu, n'avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Sous-entendu, le peuple n'avait pas de Dieu, il n'accordait pas d'importance à Dieu et il faisait donc ce qui lui semblait bon sans prêter attention à ce qui était bon aux yeux de Dieu. On a cette habitude de croire qu'on est les premiers à vivre certaines choses, on est les premiers à construire, on est les premiers à avoir l'intelligence de construire un monde meilleur que tous ceux qui nous ont précédés, en oubliant que des gens très intelligents ont déjà reconstruit le monde bien, bien des fois avant nous, parfois de façon meilleure, parfois de façon pire, et que la roue du temps ne fait que tourner, et qu'en fait ce qu'on fait aujourd'hui ressemble à ce qui s'est déjà passé. Vous voulez avoir la paix ? Regardez ce qui s'est passé dans le passé aussi, et regardez comment Dieu a à chaque fois remonté, comment Dieu a à chaque fois ressuscité des réveils, comment Dieu a à chaque fois relevé son peuple, comment Dieu a à chaque fois relevé l'Église, malgré les guerres, malgré les pandémies, malgré les pestes ou toutes les autres maladies qu'il y a pu y avoir. Regardez comment Dieu, chaque fois, a restauré son peuple. La Bible est remplie de ce genre d'histoire où Dieu relève son peuple, où Dieu redonne cette paix, où Dieu redonne constamment une espérance. Et l'Ecclésiaste terminera son livre avec cet exemple-là où il parle à un jeune en disant « Mais profite de la vie, fais tout ce qui te plaît, mais souviens-toi de ton Dieu. Parce que souviens-toi de lui avant que dans ta vieillesse tu te dises que te manquent tous ces jours-là où tu allais bien. Souviens-toi de ton Dieu avant que Dieu se remette devant toi et que Dieu te dise « Là maintenant je t'oblige à t'arrêter ». Avant qu'un nouveau confinement ne vienne nous réarrêter, que Dieu vienne nous réimposer un grand Shabbat, comme on pourrait dire, une grande pause, reposons-nous devant nous, lui et souvenons-nous de lui, souvenons-nous de ce qu'il nous a laissé. On n'est pas condamné à reproduire les choses. Mais Dieu nous demande de changer, d'accepter des choses que lui change, tout en acceptant que le monde tourne en rond. Accepter que lui nous change. Il nous change par sa parole, il nous change dans la relation qu'on a avec lui, dans la prière, il nous change dans notre habitude de le louer, de l'adorer, il nous change lorsqu'on s'exerce, comme dirait Paul à Timothée, quand on s'exerce à la piété. La piété, c'est de façon simple, c'est travailler à rester attaché à Dieu et à lui obéir. Mais dans toutes ces choses qui nous paraissent, nous, des évidences, à tel point qu'on ne lit pas trop la Bible, on prie peu, on loue peu et on s'exerce peu aux choses de Dieu. Finalement, dans ces bases qu'il nous a laissées, ça, ce sont des bonnes habitudes, de bonnes routines qui peuvent revenir, mais qui nous changent et qui, elles, nous font avancer et qui, elles, nous transforment. Souvenons-nous de ces choses. Dieu, il a une habitude. Il fait toujours du neuf. L'homme reproduit tout, mais Dieu crée. L'homme reproduit ce qu'il connaît. Il retourne dans ses travers, mais Dieu restaure. Dieu reconstruit, Dieu innove, Dieu met en place, chose qu'on voit beaucoup, mais il le fait toujours dans un cadre rassurant. Et ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup avec Dieu et qu'il faut retenir. Dieu met toujours un cadre rassurant autour des choses quand il les change. Il amène l'histoire à tourner en rond pour qu'on puisse aussi comprendre les mécanismes. Et Dieu superpose à l'histoire sa propre histoire et l'histoire qu'il veut faire aboutir. Depuis des années, depuis 2000 ans, Dieu a transformé le monde d'une manière complètement nouvelle. Mais il avait annoncé ça pendant les 2000 ans avant pour préparer son peuple à vivre ce moment-là. Et Dieu, aujourd'hui, nous prépare et nous a déjà préparé. Par exemple, il y en a plein au début du Covid qui disaient « Ah, la fin du monde arrive ». Plein d'interprétations de l'Apocalypse, etc. Mais ça fait 2000 ans que ces textes sont là pour nous préparer à un événement. Et tout à coup, parce qu'on a un malheur qui arrive, on se dit qu'il serait peut-être temps qu'on se penche sur ces textes. Prenons l'habitude de lire les textes, pas pour le moment présent qui nous semble être la fin, mais pour les choses qui sont à venir, pour les retransmettre à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui eux peut-être vivront ces moments-là. Et je termine avec ce verset, Ésaïe 43, Ne vous souvenez pas des premiers événements, ne considérez pas ce qui est ancien. Ce n'est pas dire qu'il faut oublier, mais considérez les choses de Dieu. Voici que je fais une chose qui est nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai des fleuves dans la terre aride. Et je vous invite à la prière. Seigneur, moi j'aimerais te demander que dans nos cœurs, où on passe régulièrement et en ce moment particulièrement au niveau de notre pays, par des périodes de désert, des périodes un petit peu arides. On te demande de mettre là des sources, de nous donner, de pouvoir boire à ta source, à la source d'eau vive. Cette source, Seigneur, que tu fais jaillir dans nos cœurs, cette source dans laquelle tu nous donnes d'être rassurés, de pouvoir vivre avec toi dans tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être heureux. Merci Seigneur, parce que, comme le dit l'Ecclésiaste, ce qui est bon pour un homme, c'est de pouvoir jouir de son travail, de pouvoir jouir de ce qu'il mange, de ce qu'il boit et de la vie qu'il mène avec sa femme, ses enfants, ses amis. Je te prie Seigneur vraiment que à chacun d'entre nous, tu nous donnes d'avoir cette espérance qui est sûre, de pouvoir nous constamment à nouveau nous reposer sur le roc que toi tu es, de pouvoir constamment à nouveau nous reposer sur tes promesses, sur les choses que toi tu mets en œuvre pour notre vie. Merci Seigneur de tout ce que tu fais dans nos vies, des projets que tu as sur nous. Et je prie particulièrement Seigneur pour tous ceux qui sont peut-être dans des périodes de doute, que tu viennes les rassurer, que tu viennes renouveler sur leur vie les promesses que tu leur as données, l'appel que tu leur as fait, que tu leur répètes encore, Seigneur, quelle place ils ont à jouer dans ton royaume, quelle place ils ont dans ton cœur, quel est l'amour que tu leur portes, quelle est vraiment, Seigneur, cette espérance à laquelle ils peuvent croire et sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir un esprit et un cœur qui soient stables en toi, d'avoir un cœur qui soit ancré, fondé dans ta parole, dans notre relation aussi avec toi. Que ton esprit, Seigneur, nous aide au nom de Jésus. Amen.